Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose, à chaque épisode, de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast est proposé chaque dimanche sur Radio Courtoisie, puis disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Soutenez-le et faites-le connaître autour de vous. Épisode 2. Dieu se révèle. Nous avons parlé la semaine dernière, dans le premier épisode, du dessein éternel de Dieu sur l'homme. Et nous avons vu, d'une part, qu'il y a dans le cœur de tout homme le désir de connaître Dieu, et que, d'autre part, il est possible pour l'homme de connaître Dieu par sa raison. Mais que la raison humaine n'est pas suffisante pour entrer dans le mystère infini de Dieu. Dieu, donc, se révèle à l'homme. Je vais vous lire maintenant le numéro 6 de cet abrégé du catéchisme de l'Église catholique. Qu'est-ce que Dieu révèle à l'homme ? Dans sa bonté et dans sa sagesse, Dieu se révèle à l'homme. Par des événements et par ses paroles, il se révèle lui-même ainsi que son dessein de bienveillance qu'il a établi de toute éternité dans le Christ en faveur des hommes. Ce dessein consiste à faire participer, par la grâce de l'Esprit-Saint, tous les hommes à la vie divine, pour qu'ils soient fils adoptifs en son Fils unique. Alors, nous avons ici le cœur de la révélation, à savoir que Dieu se révèle lui-même, ainsi que son dessein de bienveillance. Dieu se révèle à l'homme pour montrer à l'homme ou pour que l'homme comprenne, pour que l'homme connaisse sa destinée éternelle. Et en quoi consiste ce dessein ? Ce n'est pas simplement une connaissance, et c'est ça le cœur de cette réponse. La révélation de l'homme, de Dieu à l'homme, ne consiste pas simplement en une connaissance, mais consiste à faire participer, par la grâce de l'Esprit-Saint, tous les hommes à la vie divine. Voilà le mystère de la révélation divine. Et c'est aussi le mystère de l'Église, le mystère de la grâce, le mystère des sacrements, le mystère de la vie chrétienne finalement. C'est que Dieu n'est pas un observateur extérieur qui simplement nous donne une connaissance, il nous donne, comme s'il nous donnait un manuel en disant voilà maintenant ce que vous devez faire pour atteindre l'éternité. Dieu s'investit dans cette révélation. Non seulement il se révèle lui-même tel qu'il est, mais il nous donne sa propre vie. C'est cela que signifie devenir des fils adoptifs de Dieu. Le fils, c'est celui qui a reçu sa vie du Père. Eh bien, Dieu veut, par sa révélation, lorsqu'il entre dans le monde, il veut nous faire participants de sa propre vie, participants de la vie divine. Et comme on le verra, c'est exactement ce qui se passe au moment du baptême, on devient enfant de Dieu, parce qu'on reçoit la vie divine. Par les sacrements, on reçoit la vie divine, l'augmentation de la vie divine. Et cette vie de la grâce dans nos âmes, on le verra aussi par la suite, est appelée à s'accomplir dans l'éternité. Dans l'éternité, qui est le ciel que tout homme vise, eh bien, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement de cette unité, de cette vie commune avec Dieu. Alors, comment est-ce que Dieu nous communique sa propre vie ? Eh bien, par son propre Fils, par celui qui est, non pas un Fils adoptif, mais son Fils par nature, son Fils consubstantiel à lui-même, la seconde personne de la Sainte Trinité, celui qui a été engendré, celui qui est engendré de toute éternité, dans l'infinité du mystère de la vie divine. On reviendra bien sûr sur cette question de la Trinité. Alors, entrons plus en détail dans ce qu'est la révélation. Question numéro 7. Quelles sont les premières étapes de la révélation de Dieu ? Dès l'origine, Dieu s'est manifesté à nos premiers parents, Adam et Ève, et il les a invités à une communion intime avec lui. Après leur chute, il n'a pas interrompu sa révélation et il a promis le salut pour toute leur descendance. Après le déluge, il a conclu avec Noé une alliance entre lui et tous les êtres vivants. Voilà donc les premières étapes de l'action de Dieu dans le monde, parmi ses créatures, c'est évidemment dès l'origine. Il faut savoir, on reviendra là-dessus évidemment, que lorsque Dieu crée Adam et Ève, lorsqu'il crée les premiers hommes, ils sont évidemment heureux et ils vivent en pleine amitié avec Dieu. La vie, ce qu'on appelle le paradis terrestre, eh bien c'est cette amitié intime entre Dieu et les hommes. Le texte de la Genèse dit que Dieu parlait aux hommes, Adam et Ève, dans la bise du soir, lorsque le soir était venu. Dieu se promenait au milieu de ses créatures. C'est évidemment une image, Dieu n'a pas de jambes, mais il y a une intimité, une proximité, une amitié, une connaturalité entre Dieu et sa créature. Après le péché, après la chute d'Adam et Ève, eh bien, Dieu ne s'éloigne pas des hommes. Au contraire, il leur promet le salut. Au moment où il chasse le démon du paradis terrestre, au moment où il chasse Adam et Ève et qu'il les punit d'avoir commis le péché originel, immédiatement, il leur promet un sauveur. Il leur promet le salut pour eux et toute leur descendance. Il y a cette phrase magnifique de la tradition chrétienne qui dit « Ô bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur ». Finalement, la faute du péché originel n'est pas un échec pour Dieu, mais c'est l'occasion qui lui est donnée de nous donner encore plus, puisqu'il s'investit personnellement dans la réalisation de notre salut, du salut de chaque homme en particulier. Alors, ça c'est la première étape, qui va jusqu'au déluge, vous venez de l'entendre. Après le déluge, il a conclu avec Noé une alliance entre lui et tous les êtres vivants. Vous savez, c'est cette image dans la Genèse, où après le déluge, où tous les hommes, la majorité des hommes en tout cas, meurent parce qu'ils sont châtiés, ils sont punis par Dieu. Et bien ensuite, Noé voit un arc-en-ciel qui est le symbole de cette unité entre Dieu et l'homme. L'arc-en-ciel qui est, évidemment, on peut imaginer que... Avant les études récentes de la science contemporaine, on ne savait pas, enfin contemporaine, sens peut-être vers le 16e ou 17e siècle, on n'avait pas étudié la réfraction de la lumière dans l'eau, donc on ne comprenait pas pourquoi apparaissaient ces couleurs de l'arc-en-ciel. On y voyait évidemment un signe divin, un signe de Dieu. Alors, lisons ensuite quelles sont les étapes successives de la révélation de Dieu. C'est la question numéro 8. Dieu a choisi Abraham, l'appelant à sortir de son pays, pour faire de lui le père d'un grand nombre de peuples, et lui promettant de bénir en lui toutes les nations de la terre. Les descendants d'Abraham seront les dépositaires des promesses divines faites aux patriarches. Dieu a formé Israël comme son peuple d'élection, le sauvant de l'esclavage de l'Égypte. Il a conclu avec lui l'alliance du Sinaï, et par Moïse, lui a donné sa loi. Les prophètes ont annoncé une rédemption radicale du peuple et un salut qui inclura toutes les nations dans une alliance nouvelle et éternelle. Du peuple d'Israël, de la race du roi David, naîtra Jésus, le Messie. Alors effectivement, nous qui sommes dans l'époque terminale de l'humanité, puisque nous venons après le Christ, qui a accompli l'ensemble des promesses divines, il faut essayer de se mettre à la place des hommes qui ont précédé le Christ et qui attendaient la venue d'un Sauveur pour changer les choses. Nous, désormais, depuis que le Christ est venu, que le Sauveur est venu, eh bien, nous n'avons plus qu'une seule chose à attendre, c'est la fin du monde. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on pose la question, est-ce que vous pensez que la fin du monde approche ? Déjà, on n'a jamais été aussi proche de la fin du monde, ça c'est une certitude. Et puis, pour le chrétien, bien sûr, il n'y a plus rien d'autre à attendre que la fin du monde. Nous avons déjà, par le Christ, dans le Christ et son Église, nous avons déjà tous les moyens de notre salut. Il n'y a aucun nouvel âge à attendre qui viendrait révolutionner le monde. Pour les hommes qui vivaient avant la venue du Christ, nous l'avons dit tout à l'heure, il y avait d'abord la période de l'Alliance, de la première Alliance, à partir de Noé et ensuite confirmée en Abraham. Abraham, le père des croyants, le père d'un grand nombre de peuples, puisque Abraham est cet homme qui vient de Ur en Chaldée, donc en Irak actuel, et qui est tiré de sa terre parce que Dieu veut lui donner une terre, il veut se constituer un peuple. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, toute l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire de Dieu qui se forme un peuple, qui l'éduque, qui lui donne une loi, qui lui donne des coutumes, qui lui donne une religion, qui lui donne toute son identité, afin de susciter en lui, afin de donner à travers lui le Rédempteur à l'humanité. Toute la mission du peuple d'Israël, cette première alliance, consiste à préparer la venue du Messie. Si le peuple juif est le peuple élu, c'est parce que Dieu se forme ce peuple pour y faire naître ce Messie qu'il avait promis, ce Sauveur qu'il avait promis aux hommes depuis la chute originelle. Et donc le rôle du peuple d'Israël n'était rien d'autre que d'accueillir le Messie. Et c'est en ce sens que l'on dit que le peuple d'Israël, aujourd'hui, c'est l'Église, ce sont les chrétiens. Le peuple élu, ce sont les chrétiens aujourd'hui, puisque ce sont ceux qui ont reconnu le Messie lorsqu'il est venu comme étant celui qui était annoncé. Alors, cette alliance avec Israël s'est faite en plusieurs étapes. On parle de l'alliance du Sinaï, d'abord, puisque vous savez que le peuple hébreu avait été fait prisonnier par les Égyptiens, que Dieu libère par Moïse, il libère le peuple d'Égypte, et pour amener ce peuple jusqu'à la terre promise, la terre d'Israël. Avec toutes les péripéties, puisque ce voyage, cette entrée dans la terre promise dure finalement 40 ans. Tout l'Ancien Testament, évidemment, pour nous chrétiens, ne peut être compris que comme une préparation spirituelle au Nouveau Testament. Et lorsque le peuple élu est prisonnier d'Égypte, c'est une image de nos âmes, de notre âme, prisonnière du péché. Le passage de la mer Rouge et le jour de la Pâque, c'est une image, évidemment, du sang du Christ qui est versé pour nous libérer de l'esclavage du péché et nous mener, non pas dans une terre promise, une terre physique, mais nous mener au paradis. Donc le Christ, en fait, accomplit dans sa vie, dans toute l'œuvre de sa vie, l'ensemble des événements annoncés, préfigurés dans l'Ancien Testament. Alors, il y a eu, par Moïse, le peuple a été libéré d'Égypte, de l'esclavage, et surtout, Dieu a donné une loi. Dieu a donné aux hommes une loi, au peuple juif une loi, qui est la loi juive, qui est évidemment d'abord le décalogue, donc les 10 commandements. Et remarquons, pour faire le lien avec ce que nous disions dans l'épisode précédent, de l'unité entre la foi et la raison, eh bien, les 10 commandements ne sont pas des commandements absurdes. Les 10 commandements donnés par Dieu ne sont rien d'autre que l'expression, sur les tables de pierre, sur les tables de la loi naturelle qui est inscrite dans le cœur de chaque homme. Le fait de n'adorer qu'un seul Dieu, le fait de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tuer, ce sont évidemment les lois les plus intimes au cœur de l'homme, ce sont donc les conditions de notre bonheur, ce sont les conditions pour accomplir la perfection de notre nature, c'est-à-dire accomplir ce désir de bonheur dont nous parlions dans l'épisode précédent, qui est inscrit au cœur de chaque homme. Alors c'est très important, parce que la conclusion, pour aller vite, c'est qu'il n'y a pas de bonheur véritable en dehors de la loi divine. Celui qui n'obéit pas à la loi de Dieu, parce qu'il est voleur, parce qu'il est menteur, parce qu'il tue son voisin, eh bien, il se condamne lui-même, puisqu'il agit contre ce qui est inscrit au plus intime de sa propre existence. C'est d'ailleurs une parenthèse, peut-être que vous connaissez cet ouvrage, ce monument de la culture occidentale qui s'appelle « Crime et châtiment » de Dostoïevski. Et pour ceux qui l'ont lu, je vous invite d'ailleurs à le lire, c'est une œuvre tout à fait passionnante. Il y a ce moment, donc vous savez, je ne me souviens plus du nom du héros, mais qui tue une vieille dame simplement pour se prouver qu'il est capable d'être justement au-delà de la loi, au-delà de la loi morale. Et puis, toute l'histoire, c'est le remords de sa conscience. Il y a un moment, cette phrase que j'avais notée quand j'avais lu l'ouvrage, qui dit « La vieille, ce n'est pas moi qui l'ai tuée, mais c'est elle qui m'a assassiné. » Celui qui fait du mal, et c'est vrai pour un assassinat, mais c'est vrai pour toute forme de mal et d'action personnelle, de choix de notre liberté qui s'oppose à la loi divine, eh bien, celui qui fait du mal, en fait, se fait du mal à lui-même. Et alors, il cherche un bonheur illusoire, il cherche un plaisir passager, mais finalement, la loi ne consiste pas, la loi divine, et les 10 commandements en particulier, ne consiste pas à nous contraindre, mais il consiste à nous indiquer les rails à suivre pour atteindre l'accomplissement de notre nature, donc l'accomplissement et de notre vie personnelle, et donc comment atteindre le bonheur. Donc il n'y a pas de bonheur dans le péché. Il n'y a pas de bonheur dans le péché, on le sait bien, mais c'est tout à fait cohérent avec ce que nous voyons ici. Alors, avançons dans les différentes étapes de la révélation. Question numéro 9. Quelle est l'étape dernière et définitive de la révélation de Dieu? Cette étape s'est accomplie par le Verbe incarné, Jésus-Christ, médiateur et plénitude de la révélation. Parce qu'il est le Fils unique de Dieu fait homme, il est la parole parfaite et définitive du Père. Avec l'envoi du Fils et le don de l'Esprit-Saint, la révélation est désormais pleinement accomplie, même si la foi de l'Église devra en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Alors là, il y a encore des points très importants sur lesquels on fait bien de méditer. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, le Christ est la plénitude de la révélation du Père, de la révélation de Dieu dans le monde, puisque c'est Dieu lui-même qui entre dans le monde et qui se donne lui-même, qui se fait homme pour vivre comme homme et mourir comme homme, ressusciter pour vaincre le mal, vaincre la mort, vaincre le péché. Donc Dieu est la parole parfaite et définitive du Père. Nous le verrons quand on parlera de la Trinité. Pourquoi est-ce que c'est la seconde personne de la Trinité qui s'incarne? Parce que le Fils, qui est donc l'expression que Dieu dit de lui-même, que Dieu, la pensée que Dieu a de lui-même, eh bien, on l'appelle le Verbe, parce qu'il est la parole que Dieu dit de lui-même. Quand on pense, on exprime dans sa tête un concept, et on dit ce concept, on le dit, c'est-à-dire à voix basse, mais même pas, on n'a pas besoin de le prononcer avec un mot, mais on formule une idée. Eh bien, lorsque Dieu se pense lui-même, il se formule lui-même, il se dit lui-même, et c'est pour ça que le Fils, la deuxième personne de la Trinité, est appelé le Verbe. Donc, finalement, la révélation de Dieu, au sens strict, c'est le Fils, donc c'est Jésus-Christ. Il y a plein de conséquences qui me viennent à l'esprit, mais notre adhésion, si vous voulez, à la vérité de la foi chrétienne n'est rien d'autre que notre adhésion à Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on fait pour être uni à Jésus-Christ? Eh bien, en acceptant qu'il est la révélation de Dieu, qu'il est Dieu qui s'adresse à nous, c'est-à-dire que la doctrine de la foi, la Sainte Écriture, la tradition, le magistère de l'Église, comme on en parlera la fois prochaine, c'est-à-dire les moyens d'accès concrets à cette révélation, eh bien, ne sont rien d'autre que les moyens d'accès à Dieu lui-même qui parle aux hommes, à Dieu qui se dit aux hommes, c'est-à-dire au Verbe divin, à la parole de Dieu. Donc, vous voyez, la parole de Dieu, avant d'être un livre, évidemment, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est une personne, c'est à savoir Dieu qui se fait homme au milieu des hommes. Donc vous voyez, avec l'envoi du Fils et le don de l'Esprit-Saint, parce que l'un ne va pas sans l'autre, la révélation est désormais pleinement accomplie. Il n'y a plus rien à attendre. C'est ce qu'on dit, on y reviendra aussi dans l'épisode prochain, la révélation est close à la mort du dernier apôtre. C'est-à-dire que la parole de Dieu, qui est la parole du Christ, qui est l'enseignement du Christ sur terre, eh bien, est clos lorsque, non pas à sa mort, puisque il est ressuscité, évidemment, et qu'il a vécu avec ses apôtres pendant 50 jours après sa résurrection, mais, et donc il a transmis un enseignement oral, qui n'est pas écrit dans les livres, qui n'est pas écrit dans la Bible, et donc l'enseignement du Christ, la révélation, est close avec la mort du dernier apôtre. C'est très important parce que ça veut dire d'une part qu'il n'y a pas de nouvelles révélations à attendre. Et c'est l'objet du dernier point qu'on va aborder aujourd'hui. Les révélations privées n'ajoutent rien à la révélation avec un grand R. Je vais y revenir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, certains mouvements charismatiques, par exemple, affirment qu'il y aurait une ère de l'Esprit Saint, qu'on serait désormais arrivé dans une nouvelle ère, comme s'il y avait une nouvelle révélation, un nouveau contenu qui serait, depuis un certain temps, ajouté, qui aurait été ajouté à l'enseignement du Christ, à l'enseignement de l'Église. Et ça, c'est une erreur, ça s'oppose à cet enseignement de l'Église. Nous avons, en Jésus-Christ, dans la parole du Christ et dans les moyens qu'il nous a donnés, la totalité de la révélation. Il n'y a plus rien à attendre. Et c'est ce qui justifie le fait que le Christ lui-même nous dise « Si quelqu'un venait vous enseigner autre chose, eh bien ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. » C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à attendre, il n'y aura pas, évidemment pas de prophète qui vienne après le Christ, c'est impossible, puisque le Christ est la plénitude de la révélation. Donc c'est aussi une réponse à l'islam. Il ne peut pas y avoir de prophète qui vienne compléter ce que le Christ nous enseigne, puisque le Christ est la plénitude de la parole de Dieu, de la révélation divine dans le monde. Alors, dernier point, question numéro 10 de ce catéchisme, de cet abrégé du catéchisme. Quelle valeur possèdent les révélations privées ? Tout en n'appartenant pas au dépôt de la foi, elles peuvent aider à vivre la foi elle-même, à condition qu'elles gardent un étroit rapport au Christ. Le magistère de l'Église, auquel il revient d'effectuer un discernement sur ces révélations privées, ne peut cependant accepter celles qui prétendent dépasser ou corriger la révélation définitive qui est le Christ. Alors, vous voyez, il faut faire un discernement, et c'est le rôle du magistère de l'Église de faire un discernement, entre différentes révélations, parce que bien sûr, Dieu continue à intervenir dans le monde, par les événements, par sa providence, évidemment, et puis aussi par des miracles, par des choses surnaturelles qui peuvent advenir dans le monde. Que les choses soient claires, c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait le cas. Mais ces révélations, on appelle les révélations privées, ne viennent jamais ajouter quelque chose qui n'existait pas dans la révélation, ou ne viennent jamais corriger, encore moins, corriger ou dépasser la révélation et donc l'enseignement du Christ et transmis par l'Église. Quand on parle de ça, on peut prendre l'exemple, par exemple, de révélations qu'on appelle privées, évidemment, mais qui ont un rôle important, par exemple les apparitions de la Sainte Vierge. Lorsque la très sainte Vierge Marie apparaît à Lourdes ou à Fatima, ou dans très nombreux autres endroits dans le monde, un chrétien croit que ce sont de véritables apparitions avec un message, un véritable message, mais que ce message n'est pas du tout l'équivalent de la révélation que le Christ est venu apporter sur Terre. C'est un éclairage qui permet aux croyants, alors très important, dans une certaine circonstance de temps et de lieu, qui permet aux croyants de vivre de la foi catholique et d'entretenir leur rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ et avec l'Église. Donc, toutes les révélations privées qui consisteraient à éloigner les fidèles de la foi catholique, sur un point ou l'autre, ou à écarter les fidèles de l'adhésion au magistère de l'Église, seraient de fausses révélations et devraient être condamnées par l'Église. Et puis, il faudrait s'en méfier en particulier. Donc voilà, ces révélations privées, en particulier si c'est la Sainte Vierge, alors quand c'est reconnu par l'Église, il faut croire que c'est tout à fait vrai, mais les messages de la Sainte Vierge, elles sont liées à un temps et à un lieu, à certaines personnes, certaines circonstances, et elles ne modifient en rien, évidemment, le contenu de la révélation. Alors, je termine par une prière qui est citée ici de Saint Jean de la Croix. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole unique et définitive, Dieu nous a tout dit en une seule fois, dans cette parole, et il n'a plus rien à dire. Voilà. Dieu n'a plus rien à dire parce qu'il nous a tout dit, il nous a tout donné, nous avons tout à notre disposition. Nous avons tous les mystères de la foi, de la grâce, Dieu s'est rendu présent et il s'est donné totalement en Jésus-Christ. Comme toujours, prions le Saint-Esprit de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, Donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique et surtout, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.